Nous étions donc dans l'épître aux Corinthiens, les chapitres 11 à 14. Et c'était comme une série comme ça qu'on a, on a déroulé semaine après semaine, une lecture et une exposition suivie de la parole de Dieu. Et j'avais donné pour titre « La gloire de Dieu dans l'Église ».« La gloire de Dieu dans l'Église ». Et dimanche après dimanche, donc, nous avons trouvé des applications que la parole de Dieu qui pouvait être bonne pour nous ici à Figeac, à l'église de Figeac au 21e siècle. Et il y en a eu plusieurs, des applications personnelles dans notre relation avec Dieu, dans nos vies personnelles, des applications aussi dans notre vie communautaire. Et c'est cet aspect-là que serait bon de développer. Alors, revenir sur des applications qui nous semblaient les plus importantes. Alors, avec Morel, avec Jean, et sans doute avec leur épouse aussi, on a d'une vingtaine d'applications, on en a ressorti quelques-unes, en considérant qu'est-ce qui c'est qui était important pour nous. Et qu'est-ce que c'est qui était facile également à mettre en œuvre? S'il y a des fois des pas qui sont trop hauts, des marches qui sont trop hautes, on n'arrive pas à les franchir. Donc il faut que ce soit à notre portée, et il faut que ce soit important donc de se cibler sur celles qui étaient les plus à notre portée, les plus importantes. Et donc il en est ressorti trois, dont dans l'ordre de l'épître. Et la première, c'était que lors de la Sainte Cène, on cherche à plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Lors de la Sainte Cène, chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et prendre conscience que nous avons une fonction dans l'Église, je l'exprime comme ça. Prendre conscience de cela. L'Église est un corps avec des organes, avec des membres, et donc chacun de nous avons une fonction. Et approfondir également notre relation avec Dieu pour grandir dans l'amour fraternel. Ça, vous l'avez compris, c'est par rapport à 1 Corinthiens, chapitre 13. Alors ce matin, on va revoir ces trois applications. On va lire l'extrait correspondant dans la Bible, dans l'Épître, exposer le défi que ça constitue pour nous et les applications, comment... on peut s'encourager pour faire changer des choses dans notre Église. Hein, c'est ça le but. Et là, on laissera la parole à Jésus. Alors, sans attendre, on peut commencer par la première. Lors de la Sainte Cène, cherchons à plaire à Dieu. Donc, 1 Corinthiens 11, c'est un passage que nous connaissons bien. Donc on va lire les versets 27 à 32. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boive sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement chez vous. Alors, à ce moment-là, le repas était pris pendant, la Sainte Cène était prise pendant une agape. Donc, c'est un petit peu différent d'aujourd'hui. Et le problème que souligne l'apôtre Paul ici, c'est simplement qu'il ne s'attendait pas ils arrivaient, il y en a qui avaient faim, ils commençaient à manger et ils n'attendaient pas ceux qui arrivaient en retard. Ou bien celui qui avait rien, ben, il regardait même pas à côté d'eux. La personne qui n'avait pas amené de repas, eh ben, elle se passait de repas. Donc, c'est ce point-là que l'apôtre souligne, et c'est dans ce cadre-là qu'il donne cet avertissement. Donc, c'est pas quelque chose qui soit extraordinaire, mais quelque chose que tout le monde pouvait comprendre. Le défi, c'est la sainteté de Dieu. Dieu est présent au milieu de nous, il est présent au milieu de son peuple, et donc le repas doit être pris de façon digne. C'est ça le défi. Et nos circonstances sont différentes des Corinthiens, et nous avons à veiller sur nous-mêmes, nous avons à veiller sur la façon dont nous prenons ce repas. Alors, le défi, c'est comment arriver à faire un moment du repas, un moment qui soit personnel, qui soit l'expression d'une relation personnelle. Examinez-vous vous-même. Et communautaire, attendez-vous les uns les autres. C'est un petit peu le défi qui est devant nous. Je crois que j'avais souligné donc à ce moment-là qu'il y a un danger pour nous, c'est de ne pas avoir la crainte de Dieu, mais d'avoir la crainte des hommes. C'est-à-dire que quand on prend le repas ou quand on ne le prend pas, on a peur du regard des autres sur nous. Je sais que, par exemple, je sais que l'Esprit Saint à moi être attristé, je le sais, parce que j'ai un problème à la maison, j'ai un problème au travail, j'ai un problème personnel. Ou bien l'Esprit Saint entend de moi un pas d'obéissance que je ne veux pas faire, ou il me demande de pardonner, ou de demander pardon. Et je sais que je ne devais pas prendre le repas. Mais le fameux « qu'en dira-t-on ? Que vont penser les autres de moi ?» peut l'emporter. Et voilà, on fait quelque chose à cause du regard des autres, et on ne fait pas quelque chose à cause... Et on oublie la présence de Dieu qui est la plus importante. C'est un moment qui est saint. Donc ça, c'est une difficulté que l'on peut rencontrer. L'autre difficulté, c'est le jugement de nos frères et de nos sœurs. Ah, mais un tel n'a pas pris le repas. Alors tout à coup, il devient quelqu'un dont on ne peut plus s'approcher. Il y a avoir un péché dans sa vie, il y a quelque chose. Et ou bien on va le regarder de haut, ou bien on va secrètement dans son cœur le juger. Et ça aussi, c'est un autre danger. Donc, il y a deux dangers. Dans ce dernier cas, que je pourrais développer un peu, la réaction devait être « Oh, je vois que mon frère ou ma sœur qui est à côté de moi n'a pas pris le repas. Ça ne devrait pas. Et moi, me réveiller dans mon examen de lui-même. Est-ce que moi, vraiment, j'en suis digne? Est-ce que ça devrait nous éveiller à la vigilance et non pas au jugement? Ça devrait nous réveiller notre vigilance. Et aussi, ça devrait nous encourager à prier pour ce frère, pour cette sœur. Mais prier comment? Prier dans le lieu secret. Prier là où nous sommes avec le Seigneur seul. Je pense que c'est pas approprié de dire au frère et à la sœur « Ah, je vais prier pour toi » ou bien des choses comme ça, ou quand voilà, il revient après et puis il prend le repas du Seigneur « Ah, ben j'ai prié pour toi, tu sais. » Bon, si ça se passe dans le secret du cœur, je pense que Dieu en sera glorifié. Donc, à la fois la sainteté de Dieu, et à la fois prendre soin les uns des autres, être en communion et que personne ne soit laissé de côté. Le Seigneur nous donne une belle illustration de cela que l'on connaît en Luc 18. Vous savez, la parabole du publicain et du pharisien dans le temple. Luc chapitre 18. Il dit cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, lui, se tenant à distance, n'osait pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur, et je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bon, pour autant, il ne faut pas tomber dans un côté opposé, où personne ne prendrait le repas, personne ne se sentait indigne, parce que l'apôtre précise que chacun s'examine et qu'il prenne le pain et le vin. En tout cas, cette personne ici ne faisait aucun cas des autres. Elle ne faisait aucun cas de ses frères et sœurs. Cela nous conduit à la deuxième application pour un deuxième passage. Prendre conscience que nous avons tous une fonction dans l'Église. Vous pouvez retrouver le texte de 1 Corinthiens, chapitre, là on va tourner une page, on arrive au chapitre 12, et je vais lire du verset 12 au verset 27, un texte que vous connaissez peut-être bien aussi. Comme le corps est un, il y a plusieurs membres, donc par rapport à ce mot membre, on avait souligné qu'il faudrait peut-être considérer plutôt le mot organe, parce que membre fait pas, dans notre tête, renvoie à un membre d'association, et c'est pas du tout ce dont il s'agit, donc on peut penser à un organe du corps. Et comme tous les organes du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas partie du corps », ne ferait-il pas partie du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », ne serait-elle pas partie du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres du corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais, bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux qui nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les organes aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un organe est honoré, tous les organes se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Le verset que je voudrais souligner, c'est le verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Prendre soin les uns des autres. Alors le défi, c'est que si je ne vais pas à l'église, si je ne vais pas au culte, si je ne vais pas à la réunion, je vais forcément manquer. Le corps ne sera pas au complet. Imaginez-vous vous sortir Et puis voilà, il vous manque un œil, il vous manque un pied, il vous manque une jambe. Ça ne peut pas fonctionner, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, on vient à l'église pour recevoir. Et c'est important de recevoir, c'est important de se nourrir, c'est important de venir pour recevoir. Mais on vient aussi dans l'église pour se donner aux autres. Ainsi, on leur donne de notre temps, on leur donne notre présence, et ce n'est pas rien, hein, dans une petite église. Cela peut même faire toute la différence. Même les anciens, les responsables, les diacres, eh bien, ils ont besoin aussi qu'on prenne soin d'eux. Ils ont des besoins physiologiques, hein, ils sont pas différents des autres. L'exercice de mes dons est nécessaire à la bonne santé de l'Église. Venir, c'est bien, c'est formidable, mais le Seigneur nous a équipés de certaines fonctions dans l'Église. Et quand un organe ne remplit pas son rôle, ben forcément, cela a des conséquences. Vendredi, j'ai été à l'ophtalmo, il y avait longtemps que j'avais pas été. Et la dame m'a dit, ah, vous avez le nerf optique qui est creusé. Ah, j'ai le nerf optique qui est creusé. Et elle m'a porté toutes sortes de questions. Et jusqu'à ce qu'elle trouve pourquoi. Ah, elle m'a demandé quelle était ma tension artérielle. J'ai dit, j'ai une tension artérielle qui est plutôt basse. Ah, ben voilà. Il vous faut boire, il vous faut que votre tension artérielle remonte. La façon dont fonctionne le cœur a une incidence sur les yeux. Et pourtant, on croirait qu'il n'y a pas de relation entre. Mais c'est ainsi qu'est le corps humain, c'est ainsi qu'est l'Église. Quand il y a quelque chose qui manque, quand il y a quelque chose qui ne remplit pas son fonction, ah ben ça a des répercussions à droite, à gauche, que l'on ne peut pas toujours ni saisir, ni comprendre. Mais c'est ce que l'apôtre déclare. Et c'est ça, la vérité. Donc voilà un défi. Hein. Le défi, c'est simplement de prendre une prise de conscience. Une prise de conscience que nous avons tous un rôle et une fonction dans le corps de Christ, qui est l'Église de Jésus. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut bloquer? Ben, de pas connaître ce pourquoi on est fait dans l'Église, ça peut être une difficulté, ou bien d'être timide, de ne pas être plutôt réservé, ou avoir un complexe, des fois on a des complexes, ou bien simplement ne pas vouloir, je veux pas. Mais peut-être aussi, gloire à Dieu, tout va bien pour nous. Amen. C'est une exhortation de Jésus, par rapport à cela. On va lire dans l'évangile de Jean au chapitre 15, vers les versets 12 et 17. Un encouragement de Jésus à cette prise de conscience. Versets 12 à 17. Jean chapitre 15, on est dans la chambre haute. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Verset 12, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donc l'amour de nos frères et de nos sœurs nous demande de mettre en œuvre ce don pour eux, Les dons sont faits pour l'édification. Comme on l'a reçu, ils sont pour le bien commun. Ils sont pour le bien du corps. Ils ne sont pas pour nous-mêmes. Et donc, l'amour nous demande de donner et de nous donner aux autres. Et cela nous conduit tout droit à la troisième application, le défi de l'amour de mon prochain, le défi de l'amour de mon frère et de ma sœur dans l'Église de Jésus-Christ. Alors, revenons dans notre épître aux Corinthiens et avançons d'une page pour le fin de chapitre 13. Je vais remettre à l'écran le passage qui nous intéresse. On l'avait vu ensemble. Donc on va lire du chapitre 13, le verset 4 au verset 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Et donc à côté, c'est l'inverse de l'amour, rouma. Alors, l'amour est indispensable pour sanctifier toute œuvre, tout don, tout service dans l'Église de Jésus-Christ doit être sanctifié. C'est-à-dire, il doit être fait dans l'amour. On sert nos frères et nos sœurs à travers des dons que Dieu nous a donnés parce qu'on les aime. Par amour, et on exerce ses dons avec amour, de façon à ce que le Dieu d'amour soit glorifié. Alors, bien sûr, tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde applaudit, hein. Sauf que dans la réalité de la vie du chrétien normal, bien souvent, nous sommes de piètre rouma. Alors, est-ce qu'il y a une solution à cela? Oui. La solution au manque d'amour, c'est de fréquenter le Dieu d'amour. Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Et donc là, j'avais pas du tout développé quand on avait vu 1 Corinthiens 13. On va pouvoir le faire un petit peu partiellement ce matin ensemble. Passer du temps avec lui va faire grandir notre amour pour les frères et pour les sœurs, parce qu'il est amour. Voici ce que nous lisons dans la 2 Corinthiens 3:18. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors il y a un espoir fantastique pour nous, c'est d'être transformés et de pouvoir de mieux en mieux et de plus en plus aimer nos frères et nos sœurs et porter du fruit dans l'Église, des fruits d'amour. Alors comment faire concrètement pour approfondir notre relation avec Dieu? C'était ça l'application. Ben, on peut se mettre à l'école de Jésus. Je dirigerai un regard vers lui ce matin. L'amour est patient. L'amour est patient. C'est le premier attribut que l'apôtre Paul met en avant à l'église de Corinthe. Il leur dit, l'amour est patient, soyez patient. Comment être plus patient envers mon frère ou envers ma sœur? Vous connaissez la parabole que Jésus a donnée par rapport à ces deux serviteurs qui avaient deux dettes. Il y en avait un qui servait, qui devait 10 000 talents à son maître. C'est une somme considérable, ça fait 50 millions de journées de travail, je crois, quelque chose comme ça. Bon, en même temps, on a vu qu'il y avait un trader dernièrement là qui avait été arrivé à faire un trou dans la caisse de cette ampleur-là. Donc, c'est des chiffres qui sont énormes, bien entendu, et donc le maître passe l'éponge, parce que ce serviteur qui a fait ce trou dans la caisse dit « Aie pitié de moi et je te rembourserai tout. Aie pitié de moi. » Il dit « Prends patience avec moi et je te rembourserai tout. » Prends patience avec moi. Si vous voulez chercher le passage, c'est dans Matthieu chapitre 18, 21 à 35. Matthieu 18, 21 à 35. Et après, donc, cette personne va voir, vous savez, il croise un de ses compatriotes qui lui a une dette d'une centaine de deniers. Ça fait quelques milliers d'euros d'aujourd'hui. Et puis, il insiste, il dit, rends-moi mon argent. Et, son ami, son frère, lui, son compagnon lui dit, prends patience avec moi et je te rendrai tout ce que je te dois. Et là, cet homme ne veut pas attendre et il décide d'envoyer cette personne dans la justice, ce frère en justice, pour qu'il soit remboursé intégralement de sa dette. Et donc Jésus insiste en disant ceci au verset 33. Ne devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Avoir pitié des autres comme j'ai eu pitié de toi. Patienter envers les autres comme Dieu patiente envers nous. L'amour est patient. Il est patient parce que Dieu patiente envers nous. Et quand on comprend la patience de Dieu envers nous, nous aussi, on va être tellement, avec facilité, patient envers ses frères et sœurs. Tellement patient, car Dieu est tellement patient avec moi. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Comment agrandir mes entrailles? Comment devenir plus sensible aux besoins de mes frères, aux besoins de mon frère, aux besoins de ma sœur? Et là, je dirigerai mon regard vers l'homme riche et Lazare, vous savez, à Luc chapitre 16, 19 à 31. L'homme riche et Lazare, on connaît bien cette histoire. Cet homme qui était dans l'opulence, qui avait tout ce qu'il lui fallait, et il avait à sa porte Lazare, qui était là et qui manquait de tout. Et il passait devant sans arrêt, et il passait devant, et il n'avait aucune considération pour son frère qui était dans le besoin. On connaît bien ce passage. Luc chapitre 16, je vais lire l'enseignement de Jésus par rapport à cette façon de faire. Versets 22 et 23. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'ils étaient en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il leva les yeux, mais il leva les yeux beaucoup trop tard. Il aurait dû lever les yeux beaucoup plus tôt, quand il était dans sa vie. Il aurait dû, à ce moment-là, lever les yeux. Quelle était la solution pour lui? Qu'est-ce que Dieu attendait de lui? Jésus le souligne par la bouche d'Abraham ici. Abraham, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour que tu attestes ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un est suscité des morts. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Un jour, Dieu consolera les malheureux et jugera ceux qui ne sont pas dignes de partager leurs richesses. Ceux qui n'ont pas su partager leurs richesses. La lecture de la Bible nous apprend à être bon. Nous apprend à être bon envers nos prochains. L'amour est plein de bonté et la lecture de la Bible nous apprend cela. Comment être bon? En considérant, devenir bon en considérant la parole de Dieu. L'amour n'est pas envieux. Comment apprendre à ne pas convoiter ce qui est à mon frère ou à ma sœur, à me contenter de ce que j'ai? Alors là, j'ai pensé au partage de l'héritage, vous savez. À Luc chapitre 12, c'est quelques pages avant. Il y a dans la foule une personne qui s'adresse à Jésus. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus répondit, ô homme, qui m'a établi pour vous, juge, pour faire vos partages? Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. Et donc il donne la parabole en suivant du riche insensé. Au verset 21, par rapport à ce riche insensé, il est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, qui n'est pas riche pour Dieu. Le jour au lendemain, la vie est demandée et tout ce que tu as accumulé, pour qui ce sera? Donc, être riche pour Dieu. L'amour n'est pas envieux. Comment on peut ne pas être envieux en étant riche pour Dieu et pas en regardant d'être riche aux yeux des hommes, mais d'être riche aux yeux de Dieu? Comment apprendre à ne pas être jaloux de mon frère ou de ma sœur? La jalousie dans les fratries, ça crée des conflits, des situations impossibles dans les familles humaines. Bien souvent, ça touche au niveau de l'héritage, comme il est dit là. Et dans la vie spirituelle, dans les relations que nous avons entre frères et sœurs, ça peut être le cas, on peut être jaloux les uns des autres. Et ça m'a fait penser au grand frère du fils prodigue, à Luc chapitre 15, vous savez, quand le petit frère revient, tout piteux à la maison, son père l'accueille, et ça, le grand frère ne le voit pas d'un bon œil, et il ne veut pas venir au repas, et vous savez, connaissez la réponse que lui fait son père. Mon enfant, dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Tout ce que j'ai est à toi. Ce fils avait perdu de vue la valeur de l'héritage du père. Et il enviait la vie de Patachon, de son petit frère qui avait tout dépensé, et il avait perdu de vue quelle était la valeur de son héritage. Et donc, connaître son héritage céleste sera une bonne façon de ne pas convoiter les richesses humaines quant à la conscience des richesses célestes qui sont à nous. Éphésiens chapitre 1, verset 18, Paul enseigne, Paul prie pour les Éphésiens que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation de sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Si on comprend l'héritage qu'on a dans le ciel, les choses qui sont sur la terre n'auront vraiment pas d'intérêt pour nous. Et on va être délivré de cette envie de ce qu'a un frère ou une sœur. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Comment combattre l'orgueil ? Dans la chambre haute, il y a eu un problème. Après le repas de la Sainte Cène, vous savez, il s'éleva, Luc 22, 24, il s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent ont appelé bienfaiteurs, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit considéré comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et quelque temps avant, Jésus avait lavé les pieds de ses disciples avec une bassine d'eau et ils avaient essuyé avec un linge. Donc, comment combattre l'orgueil? Servir mes frères et sœurs à l'image du service que faisait Jésus, c'est-à-dire avec un bassin d'eau et avec une serviette en quelque sorte. Et regarder à Jésus, regarder en son exemple, nous pourrons être délivrés de cet orgueil. Nous aurons d'autres références. Notre intelligence sera renouvelé. Alors on va s'arrêter là. Vous pouvez continuer à la maison si vous voulez continuer la méditation, ou on le fera une autre fois ensemble. On va prier. Seigneur, oui, merci de savoir que c'est bien dans la communion et la relation avec toi que se trouve la solution à tous nos problèmes. Merci Seigneur, que nous puissions toujours te mettre dans la première place et avoir toujours la crainte de ton nom devant nos yeux lorsque nous sommes ensemble et pas la crainte des hommes ou la peur du regard des autres, mais rechercher toujours ton approbation. Merci Seigneur de nous faire comprendre de l'importance que nous avons pour toi et de l'importance que nous avons pour nos frères et sœurs également. De la façon dont tu as équipé chacun, Seigneur, pour que ensemble le corps de Christ fonctionne bien. Seigneur, pardonne-moi chaque fois que j'ai négligé l'assemblée, j'ai négligé ma présence auprès de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, où je leur ai manqué et où je t'ai manqué. Seigneur, merci de faire grandir cette possibilité, merci de faire comprendre la façon dont je peux me donner à mes frères et à mes sœurs, la façon dont je peux les servir, la façon dont je peux ainsi les aimer, Seigneur, et apporter ma contribution à ces fruits que tu attends. Apportez-moi aussi mes fruits, de porter des fruits, Seigneur, qui soient agréables et qui glorifient ton nom. Merci Seigneur de nous faire grandir dans l'amour fraternel également. Merci pour l'exemple que tu es, Seigneur. Merci pour ton enseignement. Merci de renouveler notre intelligence pour que nous ayons de bonnes motivations dans tout ce que nous faisons, que ce soit vraiment porté et motivé par l'amour, et que nous ne soyons pas impatients les uns envers les autres, que nous ne soyons pas comme nous voyons pas les besoins de mon frère et de ma sœur, mais que nous ayons soin, que nous soyons attentifs les uns aux autres, Seigneur, que nous soyons loin de l'orgueil également, et que nous ne portions pas le regard pour faire de la convoitise. Merci Seigneur pour cette possibilité que donne ton évangile, que d'être ainsi transformé. Transformons-nous Seigneur, on veut vraiment changer, on veut que notre église change, et que Seigneur, vraiment, quelqu'un vienne et dise « Dieu est au milieu de vous ». Dans le bon nom de Jésus. Amen.